que nous vous proposions pour cette même fête du Saint-Rosaire d'étudier une encyclique de Léon Vert. Nous avions pris l'encyclique Manier Dei Matris, publiée le 7 septembre 1892. Voyons cette année une autre encyclique de Léon XIII, l'encyclique Octobri Mensae, écrite le 22 septembre 1891, l'année d'avant de l'encyclique que nous avons vue l'année dernière. Cette encyclique Octobri Mensae est sans doute l'une des plus importantes encycliques de Léon XIII sur le rosaire. Le pape y rappelle tout d'abord ce qu'il a demandé dans ses précédentes encycliques. Il veut que l'auguste mère de Dieu, la puissante auxiliatrice du peuple chrétien, comme il l'appelle, soit implorée pendant tout le mois d'octobre et invoquée spécialement par la très sainte pratique du rosaire. Et ceci parce que le rosaire est la dévotion que l'Église, surtout dans les dangers et les époques les plus critiques, emploie et cultive traditionnellement, et cela toujours avec le succès souhaité. Or, nous dit le pape, les circonstances sont plus que jamais critiques. Il écrit en 1891. Et ce qui le pousse à écrire, c'est son amour pour l'Église, dont les peines, loin de s'alléger, croissent de jour, en nombre et en gravité. Quels sont les maux que le pape déplore? Tout d'abord, les dogmes sacrés que l'Église garde et transmet sont attaqués et combattus. Deuxièmement, l'intégrité de la vertu chrétienne dont elle a besoin est tournée en ridicule. Troisièmement, le Saint-Ordre épiscopal et surtout le pontife romain sont en butte à la calomnie organisée et à la haine attisée de mille manières. Et enfin, quatrièmement, le Christ lui-même est attaqué comme si ses ennemis s'efforçaient de détruire radicalement et d'anéantir la rédemption, cette œuvre de Dieu que lui-même nous a offerte, mais que personne, même les puissances de l'enfer, ne pourront jamais détruire. Aujourd'hui, ces maux que déplore le pape n'ont fait que s'aggraver. Il faut ajouter à ces maux dont souffrent notre sainte religion et la sainte Église, qui proviennent, certes, des ennemis externes de l'Église, mais maintenant il y a quelque chose de nouveau. Nous avons affaire à des ennemis intérieurs, des gens dans l'Église, qui occupent des places d'autorité dans l'Église, et qui ne prêchent plus la vraie foi, ni la morale catholique. Et le pape actuel est le premier d'entre eux. C'est le grand problème aujourd'hui. Notre Seigneur avait annoncé à ses apôtres que l'Église, pour enseigner la vérité aux hommes et les conduire au salut éternel, devait nécessairement combattre et livrer bataille chaque jour. Et de fait, l'histoire nous montre que de siècle en siècle, elle a toujours lutté courageusement jusqu'au martyr. Et c'est une joie, dit Léon XIII, c'est une joie de voir toutes ces âmes qui se sont livrés au martyr pour l'amour de Dieu, pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, c'est toujours Léon XIII qui parle, si rien ne la rend plus joyeuse ni plus glorieuse que d'offrir en sacrifice son propre sang uni à celui de son fondateur, on ne peut pourtant pas nier la profonde tristesse dans laquelle cette perpétuelle obligation de lutter plonge tous les gens de bien. Il y a une tristesse à lutter contre le mal chaque jour. Il y a en effet tant d'âmes entraînées aveuglément par des doctrines perverses, tant d'âmes qui, indifféremment disposées envers n'importe quelle religion, paraissent finalement avoir perdu la foi en Dieu, tant même de catholiques qui ne conservent de la religion que le mot et qui ne la pratiquent ni de fait ni en accomplissant leurs devoirs. Et le pape pointe très justement la cause de tant de désordres. L'organisation des États, écrit-il, qui suppose aujourd'hui l'Église inexistante, c'est dans les constitutions des États, ou qui entrave l'activité qu'elle déploie en faveur de la vertu qui mène au salut, Dieu laisse les nations qui se détournent de lui s'abrutir dans un effroyable aveuglement. Voilà la cause de tant de désordre aujourd'hui, l'apostasie des nations. Et ici encore, il faut ajouter aujourd'hui une autre apostasie, celle des hommes d'Église, avec les papes qui se sont succédés depuis Vatican II à leur tête. Face à une telle situation, le pape donne le remède. Le remède, c'est la prière. Mais il veut que cette prière, pour qu'elle soit un remède, soit sans relâche. Chez soi, tout d'abord, dit-il, mais plus encore, que les fidèles le fassent publiquement, assemblés dans les églises, la prière commune des chrétiens. Voilà ce que demande le pape. À quelle intention Léon XIII veut-il que nous prions? Il nous répond « Pour que Dieu délivre l'Église des hommes importuns et méchants et ramène au bon sens et à la raison, par la lumière et l'amour du Christ, les nations profondément troublées. » Encore une fois, Léon XIII revient sur ce problème de l'apostasie des nations. Car l'Église, si elle ne néglige dans sa prudence aucun des moyens humains qui sont à sa disposition, ne met pourtant pas en eux sa principale espérance, mais plutôt en Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est la prière, en effet, qui lui permet de rester à l'abri des vicissitudes du monde et de s'unir perpétuellement à la volonté divine, de vivre de la vie même de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le calme et dans la paix. Cependant, Léon XIII avance dans sa réflexion, dans l'encyclique, et après nous avoir rappelé l'importance de la prière face au péril, il veut maintenant expliquer le rôle de la Vierge Marie dans cette prière qu'il nous demande. Et pour cela, il remonte au mystère de la croix, par lequel notre Seigneur a voulu assumer une nature humaine pour racheter et glorifier l'homme, à condition que l'homme, bien sûr, s'unisse à ce sacrifice et combatte le péché. En montant sur la croix, notre Seigneur voulait contracter un mariage mystique avec l'humanité. Pour accomplir ce projet, il a voulu auparavant recevoir le libre consentement de Marie, qui représentait là, en quelque sorte, tout le genre humain. Saint Thomas écrit à ce sujet dans la Somme que dans l'Annonciation, qu'au mystère de l'incarnation de notre Seigneur, dans l'Annonciation est attendu le consentement de la Vierge représentant toute l'humanité. D'où l'on peut affirmer que sans Marie, absolument rien ne peut nous être distribué de cet immense trésor et de toutes les grâces acquises par notre Seigneur pendant sa vie et surtout sur la croix. Il fallait son consentement pour l'incarnation. Ainsi affirme Léon XIII, de même qu'on ne peut aller au Père éternel que par le Fils, on ne peut guère arriver au Christ que par sa mère. Marie est cet intercesseur qui est d'une part en grande faveur auprès de Dieu et d'autre part assez bienveillant pour ne pas rejeter la cause des plus désespérés, afin de les ranimer en leur permettant d'espérer que Dieu leur pardonnera. Elle est en grande faveur et elle est vraiment bienveillante à notre égard. Elle est à la fois puissante, parce qu'elle est la mère du Dieu Tout-Puissant, mais elle est aussi bienveillante, elle est d'une extrême bonté, elle est d'une indulgence sans borne, nous dit Léon XIII. En la choisissant comme mère de son Fils unique, Dieu lui a inspiré des sentiments infiniment maternels qui ne respirent que l'amour et le pardon. En conséquence, la tempête de maux au milieu de laquelle l'Église si durement nous montre deux choses. D'abord, le devoir auquel nous sommes assujettis de prier Dieu plus instamment. Nous avons davantage besoin du secours de Dieu dans les dangers. Ensuite, la manière dont nous devons de préférence diriger nos efforts pour que ces supplications aient le maximum d'efficacité, en passant par Marie. Et le pape nous donne cette exhortation. Recourons donc à Marie, invoquons, implorons tous ensemble Marie, la mère du Christ qui est aussi notre mère. Montrez que vous êtes notre mère, faites agréer nos prières par celui qui, né pour nous, a consenti à être votre fils. Léon XIII continue sa réflexion, et après nous avoir montré l'importance de la prière par Marie, il veut maintenant nous montrer l'importance du rosaire dans cette prière pour Marie. Et le pape nous explique que dans les diverses formules et méthodes qui honorent notre Sainte Mère, celles qui sont les plus puissantes et les plus agréables à la Sainte Vierge doivent être choisies. Or, il n'y a aucun doute que la prière qui plaît le plus à la Sainte Vierge, à Notre-Dame, est le rosaire. Il n'y a qu'à voir toutes les apparitions les plus récentes. Notre-Dame a demandé la prière du rosaire, à Fatima par exemple, mais ce n'est pas la seule apparition. Le rosaire, en effet, rappelle, en les enchaînant avec bonheur, les grands mystères de Jésus et de Marie, leur joie, leur douleur et leur gloire. Ceux qui méditent et ruminent ces mystères y trouvent, nous dit le pape, un aliment pour la foi, un remède contre l'ignorance et les erreurs pernicieuses, un fortifiant, un tonique de l'âme. Ce sont les paroles de Léon XIII. En effet, quand on prie ainsi, en méditant les mystères, en cherchant à creuser ces récits évangéliques, à en faire notre nourriture, l'intelligence et la mémoire, éclairées par la foi, goûtent les mystères. Tantôt, l'intelligence et la mémoire s'y arrêtent longuement, tantôt elles les parcourent. Elles ne peuvent assez admirer cette œuvre indicible, qu'est la rédemption de l'humanité, cette œuvre accomplie à un si grand prix. Le rosaire contient le mystère de notre salut, ce que Dieu a fait pour nous sauver. Et il faut méditer ces choses-là. Nous en avons besoin pour les faire nôtres. Alors, c'est le cœur qui s'enflamme d'amour et de reconnaissance au spectacle de ces preuves de charité que Dieu nous a données. Notre espérance s'affermit et s'accroît. Nous désirons avec ardeur les récompenses promises par Dieu dans les mystères glorieux. Et pour cela, nous acceptons de passer par la souffrance, par les mystères douloureux. Léon XIII affirme que c'est la Reine du Ciel elle-même qui a attaché à cette prière sa grande efficacité. Car c'est sur son ordre et sous son inspiration que cette prière a été établie et propagée par Saint Dominique à une époque hostile au catholicisme. Le rosaire fut cette arme toute puissante pour vaincre les ennemis de notre foi. Et il n'en est pas différemment aujourd'hui. Le pape, après avoir montré cette importance du rosaire dans la prière à Marie, répond ensuite à une objection venant de ceux qui se plaindraient que rien de ce qu'on espérait n'a encore été obtenu jusqu'à ce jour, ni surtout la paix ou la tranquillité de l'Église, et pour qui les temps paraissent même devenir plus durs et plus troubles. C'est le cas aujourd'hui. Il leur répond ceci. Tout d'abord, que ces âmes prennent garde de perdre confiance et de perdre le goût de la prière. C'est le danger à la vue des calamités, de perdre l'espérance en Dieu. Deuxièmement, qu'ils fassent en sorte que les prières qu'ils adressent à Dieu soient revêtues des qualités nécessaires d'après l'enseignement de notre Seigneur. Il faut bien prier, avec humilité, confiance. Troisièmement, qu'ils considèrent qu'il est injuste, qu'il est impie de vouloir fixer à Dieu un délai pour nous secourir et une manière de le faire. Nous n'avons pas à fixer à Dieu de délai, ni lui à imposer les façons dont nous, par lesquelles nous voulons être exaucés. C'est très important, ça. En effet, Dieu ne nous doit rien. Quand il exauce nos prières et couronne nos mérites, il ne fait que couronner ses propres dons. Quand il ne veut pas entrer favorablement dans nos vues, c'est un bon Père qui agit avec prévoyance à l'égard de ses fils. Il a pitié de notre folie, il a en vue notre intérêt. Et Léon XIII continue que notre premier soin doit donc être de demander tout d'abord dans nos prières le souverain bien. Il faut demander Dieu. C'est-à-dire demander notre salut. Et le salut éternel aussi de notre prochain. Demander Dieu pour nous et Dieu pour le prochain. Puis, deuxième objet de notre prière, dit Léon XIII, demander la conservation de l'Église. Le moyen pour aller à Dieu, pour que le prochain aille à Dieu, c'est de passer par l'Église. Ensuite, seulement, nous dit Léon XIII, nous pouvons demander à Dieu tous les autres biens temporels utiles. Pourvu que nous soumettions par avance à sa volonté, nous nous soumettions, et qu'exaucés ou non, nous lui rendions grâce de toute façon. Il y a un exemple très intéressant au Moyen-Âge. C'était un aveugle. Il était en Angleterre, il était allé au tombeau de Saint-Augustin de Canterbury pour recouvrer la vue. Et il priait longuement pour obtenir ce don de recouvrer la vue. Plutôt de l'avoir, il ne l'avait jamais eu, pardonnez-moi. Et par l'intercession de Saint-Augustin de Canterbury, il a recouvré la vue. Il a découvert le monde. Il a vu pour la première fois. Il était dans une grande joie. Et il voulait tout voir. Mais faisant réflexion sur lui-même, plusieurs jours après, il s'est rendu compte qu'il avait perdu la dévotion. Il avait perdu la présence de Dieu dans son âme et dans son cœur. Dieu n'était plus l'objet unique de ses pensées. Pris d'un scrupule, un bon scrupule, il est revenu au tombeau de Saint-Augustin. Il s'est remis à genoux. Il a demandé à Saint-Augustin, « Si le don de la vue que m'avait donné doit me faire perdre le ciel, ou que je devienne moins saint que j'aurais dû l'être en étant aveugle, je préfère redevenir aveugle. » Et immédiatement, il a reperdu la vue. Pour rester aveugle jusqu'au jour de sa mort et voir des yeux de son âme le souverain bien dans l'autre vie. Bel exemple qui nous montre que nous devons être prudents dans ce que nous demandons, dans les faveurs temporelles que nous demandons à Dieu. Tout n'est pas bon pour le ciel. Dans ces conditions, continue Léon XIII, quiconque prie avec l'Église et par l'Église demande et obtient précisément ce que, avant tous les siècles, le Dieu Tout-Puissant a décidé d'accorder. La prière, ce n'est pas un bras de fer avec le bon Dieu que nous allons gagner. La prière, c'est un diapason auquel nous mettons notre volonté à la note que joue le bon Dieu. C'est notre volonté qui s'accorde sur celle de Dieu. Dieu voulait nous donner tel bien, et il voulait que pour l'obtenir, nous prions. La prière, ce n'est pas obtenir un bien que Dieu nous refuse. La prière, c'est obtenir un bien que Dieu veut nous donner par la prière. C'est très différent. Ainsi, si nous avons la grâce d'aller au ciel, Dieu nous montrera à découvert les causes et les conséquences des événements. Et nous verrons que par nos prières, et seulement par elles, nous avons obtenu certains biens que nous n'aurions jamais obtenus si nous n'avions pas prié. Ainsi, l'office de la prière apparaîtra dans toute sa clarté, avec son efficacité à l'égard du salut. Et combien nos demandes auront eu d'utilité. Alors, on verra que c'est grâce à la prière que tant de chrétiens, au milieu de la corruption si grande d'un monde si dépravé, auront su se garder purs et vierges de toute souillure du corps ou de l'esprit, menant à bien leur sanctification dans la crainte de Dieu. Que les uns, au moment où ils étaient sur le point de céder à des tentations honteuses, se seront brusquement retenus et auront tiré du danger de la tentation elle-même d'heureux progrès spirituels. C'est Léon XIII qui parle. Que les autres, tombés dans le péché, auront senti dans leur cœur une bonne inspiration qui les aura fait se relever et se jeter entre les bras du bon Dieu. Cependant, pour que nos prières soient efficaces, Léon XIII note à propos qu'il nous faut joindre la pénitence. La prière nourrit l'âme, l'arme de courage, l'élève à Dieu. La pénitence, elle, de son côté, nous permet de nous dominer et surtout de dompter notre corps, qui, à cause de la faute originelle, est le plus redoutable ennemi de la doctrine et de la loi de l'Évangile. Et c'est à ces conditions que la prière de notre rosaire obtiendra les grâces que Dieu veut nous donner par l'intercession de la Vierge Marie. Léon XIII conclut son encyclique en nous rappelant ce que nous devons surtout demander par la prière de notre rosaire. Tout d'abord, que tous les croyants lui demandent d'obtenir de son Fils le retour des nations dévoyées des bonnes traditions et des principes chrétiens sur lesquels repose le salut public et qui seuls peuvent produire une abondante moisson de la paix qui nous manque et du véritable bonheur, le retour des nations. C'est ça qu'on doit demander tout d'abord, nous dit Léon XIII, dans notre rosaire. Deuxièmement, qu'il lui demande plus instamment encore le bien le plus désirable de tous, la liberté reconquise et paisiblement conservée par leur mère l'Église. Cette liberté dont elle n'use que pour prendre en main les plus grands intérêts de l'humanité. Cette liberté dont jamais un individu ou un État n'a eu à souffrir, mais dont ils ont toujours recueilli les plus grands et les plus nombreux bienfaits. Et aujourd'hui, vu la situation de l'Église, ce qu'il nous faut demander pour que l'Église puisse accomplir sa mission, c'est le retour des autorités à l'intégrité de la foi et à la prédication de la vraie morale. C'est ça qu'il nous faut demander aujourd'hui. Demandons donc à Notre-Dame du Rosaire de nous obtenir ses grâces et soyons bien générés pendant ce mois d'octobre pour bien prier notre rosaire en le méditant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.